Say Partners vous présente Supply Chain Digital. Say Partners, la supply chain augmentée.
Bonjour à tous, bienvenue dans Digital Supply Chain, un thème, un expert et 10 minutes pour vous éclairer. À mes côtés, notre expert, le trublion de la supply chain, Hervé Hillion, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la supply chain verte, ce qu'on appelle la supply chain décarbonée. Est-ce un mirage ou une réalité ? Juste une petite introduction, il faut dire que la chaîne logistique verte a pour but de réduire, bien évidemment, l'empreinte environnementale d'un produit, et ce, tout du long du cycle de vie. Lorsqu'on parle de chaîne logistique verte, on a souvent tendance à l'associer spécifiquement au transport routier. Or, ça s'applique également au niveau de tous les maillons de la chaîne logistique, depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution, la livraison. Alors, Hervé, qu'est devenu ce fameux concept de supply chain durable qui date quand même de plus de 10 ans? On en est où?
Oui, en effet, parce que 10, voire même 15 ans, et à l'époque, on parlait déjà de green supply chain, mais force est de constater qu'il y avait plus de communication que d'action, d'abord. Ouais. Et puis, deuxièmement, c'était réduit à l'aspect, certes, qui reste très important du transport. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle la supply chain durable ou la supply chain verte ou la supply chain décarbonée intègre beaucoup plus de facteurs sur les produits, sur les emballages, sur les circuits courts, sur l'énergie, bien entendu. Donc on est sur un champ aujourd'hui d'action beaucoup plus large que l'aspect proprement carbone lié au transport, qui reste néanmoins un contributeur majeur, comme chacun sait.
Oui, c'est vrai que c'est la première idée qu'on a, c'est tout de suite, on va se caler sur les transports, alors qu'effectivement, tous les maillons de la chaîne, on le disait à l'instant, sont concernés. Et pourquoi l'impact de la transition énergétique semble relativement absent des réflexions jusqu'à aujourd'hui sur justement la transformation de cette SC?
C'est un grand mystère pour moi, parce que, alors peut-être aussi parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de transition énergétique et l'énergie est un des contributeurs majeurs, comme chacun sait, à l'économie carbonée. Mais c'est vrai que l'énergie, comme on l'a dit, elle était essentiellement vue à travers le pétrole qu'on consomme dans le transport, mais il y a tous les process de production, et puis plus généralement, il y a tous les stades d'une supply chain. Quand on va extraire des matières premières, on consomme de l'énergie, le transport, on l'a dit, la production, mais également le recyclage. Donc l'énergie, pour moi, dans une supply chain, ça doit aujourd'hui de plus en plus être considéré comme un des éléments majeurs d'optimisation, d'amélioration, avec la capacité de mesurer l'efficacité énergétique d'une supply chain de bout en bout.
– Alors pourquoi la réflexion n'avance pas à ce niveau-là ?
– La réflexion n'avance pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est, ça suppose déjà de mettre autour de la table beaucoup d'acteurs dans une supply chain, puisque attaquer la question de l'énergie dans une supply chain, c'est nécessairement prendre la supply chain réellement de bout en bout. Ouais. Donc ça veut dire mettre aussi déjà autour de la table de fournisseurs des fournisseurs, des transporteurs, des producteurs, des distributeurs. Ça suppose donc de fédérer déjà beaucoup d'acteurs, et on sait qu'historiquement en supply chain, même si c'est l'ambition historique de la supply chain que de fédérer tous ces acteurs-là, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'autant pour l'aspect carbone, les modèles aujourd'hui existent, qui sont de plus en plus d'ailleurs élaborés en matière de calcul des empreintes carbone, notamment à travers tous les travaux qui ont été faits par l'ADEME et qui ont été repris. En revanche, en termes d'énergie, presque tout est à faire aujourd'hui en termes de modélisation des flux énergétiques dans une supply chain. Donc c'est un terrain certes très intéressant, mais encore assez balbutiant.
Et vaste.
Et très très vaste. Oui,
alors
absolument.
Les enjeux sont très importants. On a d'abord la conformité aux réglementations gouvernementales qui devient de plus en plus stricte à l'égard de l'environnement. À ce niveau-là, comment ça se...
On le voit aujourd'hui à travers les réglementations. Par exemple, pour revenir aussi au-delà des aspects qu'on évoque sur l'empreinte carbone, mais par exemple sur le plastique, donc progressivement un bannissement de l'utilisation des matières plastiques qui va se transformer profondément, par exemple, les emballages produits. On a évidemment les aspects, on pourra en revenir dessus, qui sont des mécanismes incitatifs par le truchement des taxes, mais dont on a vu aussi le recul en France par rapport à ce qui s'est passé. Là, une des questions fondamentales que l'on connaît bien, c'est que aujourd'hui, les réglementations ne sont pas, loin s'en faut, au niveau mondial homogène. Oui. On l'a vu par rapport aux accords et aux pays qui ont signé la COP et ceux qui ne le sont pas. Et donc, on a aussi une problématique, bien entendu, de compétitivité pour ceux qui appliquent des réglementations plus strictes. Et ça, c'est quand même aussi un frein aujourd'hui majeur, tant qu'on aura des différentiels de compétitivité qui sont liés à des différences de réglementation sur tous ces aspects d'économie décarbonée.
Parce que tous les pays ne sont pas à l'unisson, donc c'est aussi cette problématique de concurrence.
Exactement. Donc une des questions d'ailleurs fondamentales, c'est comment réintroduire, pas uniquement par le mécanisme de la réglementation, mais comment réintroduire les coûts d'externalité. Parce que la supply chain a énormément de coûts d'externalité, bien entendu. On prend le transport, on pense évidemment au pétrole qu'on utilise, mais il y a aussi la congestion, le trafic, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup, à juste titre, d'économie circulaire, donc de passer aussi dans une logique où le producteur est responsable, de plus en plus responsable, de recycler l'ensemble des produits. Tout ça change assez profondément la chaîne de valeur l'ensemble des coûts sur une supply chain et nécessite effectivement d'appréhender cet aspect de compétitivité de coûts dans une logique très très différente de celle qui prévaut jusqu'à présent en supply chain.
Alors parmi les enjeux, on parlait de la conformité aux réglementations, il y a aussi bien évidemment la hausse des coûts logistiques. L'accès à un marché qui devient restreint dans le cas où l'entreprise ne répond pas aux règles vertes, mais aussi, c'est important de le signaler, l'amélioration de l'image de l'entreprise et l'obtention d'un avantage concurrentiel. Cette image, on le voit de plus en plus qu'au sein des populations, il y a cette prise de conscience et que donc pour les entreprises, c'est important quelque part d'avoir le label vert. Est-ce que ça compte vraiment aujourd'hui pour les entreprises?
Oui, je crois que ça compte de plus en plus, on le voit dans tous les domaines. Alors évidemment, on le voit plus dans le domaine du B2C, directement dans les supply chains qui sont des supply chains de distribution, mais on commence à le voir aussi dans le B2B. Et c'est un vecteur très important et qui va s'accélérer en termes d'incitation à être beaucoup plus vertueux. Cet aspect de supply chain verte. Et je pense que les consommateurs et aussi peut-être les générations plus jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à cet aspect-là que nous l'étions
à notre époque. On balançait tout par les fenêtres. Alors, justement, la vision idéale qui serait d'avoir une supply chain totalement verte, prenons étape par étape et voyons en quoi on peut progresser et devenir complètement green. Commençons par l'acquisition et les achats. Quel progrès y a-t-il à faire là-dessus?
Dans les achats, il y a évidemment les achats de matières premières. On connaît tous déjà les matières premières, les ressources rares. Évidemment, il y a toutes les matières premières qui sont peu ou prou liées au pétrole. Et donc, il y a déjà une première question au niveau des achats, c'est qu'est-ce que l'on peut acheter différemment, comment on peut concevoir un produit peut-être avec des matières premières qui sont un peu plus vertes pour la planète. Ça, c'est un premier élément tout à fait concret.
Ce que vous appelez les matières rares, les métaux rares,
c'est ça ? Les métaux rares, oui, par exemple, qu'on connaît.
Il y a déjà une problématique, c'est que nous, on a poussé notre pollution en Chine, quelque part, parce que c'est là-bas qu'on récolte les métaux rares et qu'on n'a pas voulu le faire en France.
Ah oui, déjà, il faudrait... Absolument, oui, tout à fait. Puis il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est les techniques d'extraction, par exemple, très invasives. On le sait, bien qu'en France, là, pour le coup, on ait des réglementations strictes, mais sur le pétrole et autres. Oui. Donc, je crois que les entreprises doivent, à ce niveau-là, déjà au niveau des achats, se poser la question du processus lui-même, de ce qu'il induit, et ne pas uniquement reporter cette question-là sur les fournisseurs. C'est d'ailleurs la logique aujourd'hui qui est celle de la RSE, où de plus en plus, les grandes entreprises se sentent redevables sur le cycle complet, donc aussi par rapport à des fournisseurs, y compris des fournisseurs lointains, de la façon dont eux-mêmes aujourd'hui mettent en place ou cherchent à mettre en place des solutions un peu plus vertes.
D'accord. Alors, sur ces étapes de la chaîne, on en a sept, on va essayer de faire assez rapidement. Oui, la deuxième, c'est production.
C'est la production. Là, c'est évidemment notamment les aspects à la fois, par exemple, j'en donne deux sur la supply chain, on parlait tout à l'heure d'énergie, donc comment réduire la consommation d'énergie tout en ayant la même productivité. Mais par exemple, il y a l'aspect flexibilité, puisque je prends les tailles de l'eau qu'on connaît bien en supply chain, pour prendre un exemple très concret. Plus on a des outils flexibles avec des tailles de l'eau réduites, moins on aura de stock, donc moins d'obsolescence. On peut, là aussi, par exemple, voilà des actions concrètes qui vont dans le sens d'une supply chain plus vertueuse.
Ensuite, nous avons l'emballage.
Ça, oui, l'emballage.
On l'a évoqué tout à l'heure, mais ça, bien évidemment.
Alors il y a tout l'emballage, oui, l'emballage recyclable, les matériaux, on parlait de plastique.
On est loin de ça encore.
Ah oui, on est encore très loin de ça parce que l'emballage a pris un tel poids dans la supply chain depuis 10 ou 15 ans. Il est quand même constitutif, c'est un élément qui est constitutif aujourd'hui de toute la supply chain, des contraintes de transport, des contraintes de production. Donc il y a beaucoup à faire pour repenser aujourd'hui les emballages depuis que ceux qu'on en utilise depuis 10 ou 15 ans, ça c'est très clair.
Un poste peut-être un peu moins clair pour le grand public, c'est l'entreposage. Quel progrès on peut faire ?
L'entreposage, j'aurais tendance à dire déjà le premier progrès qu'on peut faire, c'est de diminuer les stocks. Parce que effectivement, les stocks, ça coûte beaucoup, il y a aussi beaucoup de gâchis. Et plus on a de stocks, plus il faut d'entrepôts.
C'est ça, plus les bâtiments sont grands.
Plus les bâtiments sont grands.
Et l'énergie.
Absolument. Donc il y a déjà cet aspect-là, commencer par finalement la cause première, qui sont les stocks. On a besoin d'entrepôts parce qu'il y a des stocks. Et puis, bien entendu, après, il y a tous les bâtiments à énergie positive. Il y a également tout le développement dans l'intérieur de l'entrepôt, par exemple des chariots ou des robots à énergie électrique, etc. Ouais. Donc là aussi, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de potentiel et beaucoup d'évolution. Mais je crois qu'il faut déjà commencer par la réduction des stocks.
La réduction des stocks, effectivement. Alors, rapidement, on a aussi la distribution et le transport, mais ça rejoint ce qu'on disait
tout à l'heure. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, on en a moins parlé, mais c'est le développement des circuits courts. C'était un élément très important parce que...
Qui se développe
absolument, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, parce que je crois que j'ai eu l'occasion de l'évoquer déjà dans un autre séance, c'est qu'il y a beaucoup à faire sur les supply chains telles qu'elles sont organisées historiquement, on vient de l'évoquer, en reprenant les différents maillons, mais il y a également... un autre levier majeur qui est de repenser complètement des supply chains. Et évidemment, plus les supply chains sont courtes, plus c'est naturellement vertueux. Il n'y a pas besoin de faire énormément de modélisation et d'analyse pour en tirer cette conclusion.
Alors, pour terminer, on le disait à l'instant, mais je voudrais justement conclure peut-être là-dessus, parce que l'ASC verte ou décarbonée, ça réhabilite les stocks, car plus les flux sont tendus, plus il y a de transport. Et donc, c'est absurde de courir derrière un service de livraison de plus en plus rapide, parce que c'est complètement écolo. Et souvent aussi de commander des choses dédiées, un petit peu plus personnalisées. Là aussi, c'est pas très écologique, tout ça.
Ah oui, alors ça, c'est le grand paradoxe. D'ailleurs, j'évoquais le fait que les jeunes générations, à juste titre, sont peut-être plus sensibilisées historiquement que nous. On n'est pas si vieux que ça, mais on n'est pas non plus tout à fait jeune, sur ces aspects de supply chain verte et puis d'économie décarbonée. Par contre, je crois qu'ils ne sont pas suffisamment sur le fait que d'exiger d'avoir n'importe quel produit à n'importe quel moment, quand on le veut, tout de suite, c'est un vecteur majeur de contribution à l'empreinte carbone, parce que plus les flux sont tendus, plus les flux sont tirés, plus on transporte et moins on est vertueux sur le plan de l'empreinte carbone. Ça, c'est une évidence.
Alors pour terminer, c'est la tradition. Hervé, en un mot, oui ou non, pensez-vous que l'ASC va devenir verte, allez, dans les 20 ans à venir ?
Ah oui, je pense qu'elle le deviendra dans les 20 ans, et j'espère même un peu plus tôt que ça.
Un peu plus tôt que ça, bon, ça, on a de l'espoir. Merci beaucoup Hervé Lyon. Merci à Jean-Philippe Guillaume, à la rédaction en chef, ainsi qu'à la Dream Team d'Agora, la réalisation et à la production.
Merci Alexandre.
Très bientôt pour un nouveau Digital Supply Chain. En attendant, prenez soin de vous.
Say Partners vous a présenté Supply Chain Digital. Say Partners, la supply chain augmentée.